RCF. L'évangile de ce dimanche est une histoire de guérison avec un aveugle de naissance qui sort de sa longue nuit pour découvrir le jour et des hommes de loi qui ont des yeux pour voir mais qui pourtant les obstruent par l'épaisse couche que sont leur certitude et le jugement qu'ils portent sur les autres. Dans cet évangile, il est aussi question de Jésus qui agit pour le bien de l'autre mais sans ostension, sans laisser de traces, incognito. C'est Jean qui raconte la scène au chapitre 9 de son évangile alors qu'il rencontre une adversité de plus en plus tangible de la part de ceux qui le considèrent comme un empêcheur de tourner en rond et qui pourraient bien menacer leur pouvoir. Pour commenter cet évangile, je reçois James Woody, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France à Montpellier. Comme cet évangile est particulièrement long aujourd'hui, nous en écoutons un passage, une partie, les versets 1 à 23.
En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent : « Rabbi, qui a péché ? Lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé, lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il ? » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. »
James Woody, il est question d'un aveugle de naissance que Jésus rencontre et tout de suite cette question entre maladie et péché, puisque les disciples demandent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents ? Pourquoi est-il aveugle finalement ?»
Oui, c'est frappant de constater que Jésus tombe dans une sorte de traquenard de personnes qui veulent en permanence établir une relation entre une maladie et la faute. Et alors, comme cette personne est aveugle de naissance, la difficulté pour eux, c'est de se demander comment cette personne a pu pécher. Alors, soit ce sont les parents qui ont péché et qui ont transmis la faute à leur enfant, ce qui serait un peu contraire à la logique, par exemple, de Jérémie ou d'Ézéchiel, qui disent que ce n'est pas parce que les parents ont péché ou qu'ils ont mangé des raisins verts que les enfants doivent avoir les dents agacées. Ils insistent sur la question de la responsabilité individuelle.
Mais c'est pas automatique.
Non. Et alors, certains rabbins ont imaginé que ce jeune homme avait péché dans le sein de sa mère, durant la grossesse, en fait. Donc, vous voyez jusqu'où ça nous mène. Et le travail de Jésus va être de rompre ce lien de causalité entre maladie et péché en disant « arrêtez vos spéculations ». La question est de savoir ce que nous allons faire de cette situation. Et c'est comme cela, je pense, que nous pouvons comprendre cette phrase un peu ambiguë de Jésus qui dit « c'est afin que les œuvres du Père soient manifestées et que la gloire du Père soit rendue visible ». Autrement dit, cessez donc de chercher absolument une culpabilité, essayez plutôt de trouver un chemin de salut, une voie vivable pour cette personne-là.
Vous avez déjà prononcé plusieurs mots, faute, salut. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que ça veut dire au fond? Quand dans la tête de ces personnes, on reliait la maladie à la faute, c'est quoi?
La faute, en général, c'est une faute morale. C'est avoir commis un délit, un péché, et d'être puni par Dieu, d'être sanctionné pour la faute que l'on a commise. C'est exactement la même logique que l'on trouve dans le livre de Job, quand Job se retrouve dépossédé de biens, de sa famille, et que ses amis, pour autant qu'on puisse appeler ça des amis, viennent lui expliquer, écoute, si tu es dans une telle souffrance, c'est certainement parce que tu l'as bien cherché, tu en es certainement la cause. Cela n'arrive pas sans que tu en sois responsable. Et Jésus explique qu'il peut y avoir du mal absurde, du mal dont on n'est pas à l'origine. On peut subir des malheurs sans être la cause de son propre malheur. Et ça, ça change beaucoup de choses parce que ça signifie qu'on ne peut plus être la victime de la culpabilisation de la part des autorités religieuses qui trouvent toujours un subterfuge pour expliquer que si vous êtes dans cette situation catastrophique, c'est parce que vous en êtes le responsable. Il va donc falloir se repentir beaucoup et passer par les fourches codines de l'institution ecclésiale pour pouvoir espérer une petite rédemption.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
James Woody, il est souvent question chez Jean de lumière et de ténèbres. Et on a cette phrase, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Qu'est-ce que ça signifie?
Eh bien, un peu plus tôt dans l'évangile de Jean au chapitre 8, c'est au verset 12, Jésus explique qu'il est la lumière du monde. Alors, c'est pas au sens physique que ça se joue, c'est au sens symbolique. Et c'est cette idée selon laquelle nous ne voyons bien le réel, nous ne comprenons bien notre vie qu'à la condition que cette vie soit mise en lumière. Et qu'est-ce qui met en lumière? Est-ce que c'est notre vision des choses? Est-ce que ce sont nos critères qui permettent d'appréhender convenablement notre environnement? Ou avons-nous besoin d'un regard plus large, d'une lumière qui viendrait d'en haut, pour le dire symboliquement, qui va éviter qu'il y ait encore des zones d'ombre? Il y a toujours des choses qui nous échappent. Il y a toujours des parts d'ombre. Et ces parts d'ombre nous empêchent de bien comprendre les différents mécanismes qui sont à l'œuvre dans la vie. Ici, Jésus est une instance de révélation en ce sens où il lève les zones d'ombre, notamment sur ce qu'est la dignité d'une personne. La dignité d'une personne ne tient pas à son éventuel handicap. Et on pourrait dire que les pharisiens, au contraire, n'ont qu'une vision superficielle des choses, parce que beaucoup de zones d'ombre demeurent en dépit de ce qu'ils vont dire, à savoir « nous savons ». En fait, ils ne savent rien.
Oui, parce que quand on regarde le texte, plusieurs fois, ils disent « nous savons ». Nous savons, nous, qui est cet homme? Le guéri, là, il est pécheur, mais Jésus aussi, nous savons qui il est pécheur, et les paroles sont très dures dans une partie du texte qu'on n'a pas lu. Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. C'est dans la deuxième partie du texte.
Et en même temps, cette personne-là va expliquer que celui qui l'a guéri a opéré quelque chose qui ne s'est jamais fait jusque-là. Même dans la Torah de Moïse, il n'est pas de miracle semblable, guérir un aveugle de naissance. Ce qui renvoie finalement les pharisiens à leur inconnaissance. Au fond, ils sont face à quelque chose qu'ils ne connaissent pas parce que cela n'a jamais existé. Ils sont face à la nouveauté radicale et ils sont tout à fait incapables de pouvoir l'appréhender. Au fond, être face à Dieu, c'est être face à l'inattendu, face à la nouveauté. Et ils ne sont pas équipés pour cela parce qu'ils sont, comme vous le disiez au départ, enfermés dans leur certitude. Ils n'ont que leur grille de lecture pour essayer de comprendre le monde qui, lui, est toujours fait de nouveautés.
Mais alors, les pharisiens ne sont pas les seuls, James Woody, à ne pas comprendre ce que fait Jésus et l'histoire là, qui vient de se dérouler, puisque les voisins, on a dans la première partie du texte, les voisins qui le voient mendier, cet homme qu'ils connaissent, et là, ils semblent ne plus le reconnaître. C'est étrange.
C'est quelque chose qui arrive assez souvent quand un personnage biblique est au contact du divin. On peut penser à Jacob qui change de nom et qui devient Israël, et il pourra se réconcilier avec son frère Ésaü. Mais on peut penser aussi au premier messie d'Israël, Saül, quand il reçoit l'onction par Samuel, ensuite il prophétise, et les voisins, les membres de la famille, ne le reconnaissent plus. Autrement dit, il change presque de nature. Il est méconnaissable parce qu'il se métamorphose. Il devient véritablement humain. Et nous n'avons qu'une connaissance partielle de ce qu'est l'humanité. Et quand on est face à l'humain, eh bien en fait, on est face à quelque chose que l'on ne connaissait pas et donc qu'on ne peut pas reconnaître. Mais il y a aussi un autre phénomène intéressant, c'est qu'au moment où l'homme qui ne voyait pas est guéri, il ne voit plus Jésus. C'est un peu comme les disciples d'Emmaüs. Quand il ouvre les yeux, il ne voit plus. Le Christ échappe, comme si la mainmise était impossible, comme si Jésus s'efforçait de rendre les gens à nouveau humains et ensuite il disparaissait pour que les gens soient libres de mener leur propre existence.
Revenons avec vous sur le rituel médical là, qui est décrit au début. L'évangéliste Jean nous montre comment Jésus s'y prend, une sorte de cataplasme avec de la boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. On peut penser à la glaise du premier chapitre de la Genèse avec laquelle Dieu crée l'homme. C'est une sorte de recréation. Qu'est-ce que c'est symboliquement, ça?
Symboliquement, il me semble que c'est une façon de dire que nous ne sommes jamais finis. Et nous avons en permanence besoin de venir au monde. Et effectivement, c'est un geste de création qui peut nous faire penser au livre de la Genèse. Et c'est un rite d'ailleurs que l'on trouve dans certaines civilisations. Chez les guerriers Maasai, quand un enfant vient au monde, on lui crache dessus. Alors là, c'est plutôt pour essayer de le défigurer et éviter que les mauvais esprits s'attachent à lui. Mais nous avons le principe de l'eau lustrale. Il y a aussi des rites romains qui étaient attestés avec de l'eau. Ça peut faire penser aussi à la question du baptême. Avec le fait que cela soit mêlé à de la boue, à de la glaise, cela fait penser effectivement à la création de ce premier homme. Nous sommes toujours en train de devenir Adam. Et Jésus se pose comme celui qui continue la création. La création n'est pas finie, contrairement aux pharisiens qui pensent que on doit maintenir les choses en l'état. Jésus, lui, est au contraire celui qui révèle, qui prêche que nous devons continuer à être créateurs avec Dieu.
Qu'est-ce que ça signifie le fait que l'homme ne guérit pas tout de suite? Il doit aller dans une piscine, on nous dit la piscine de Siloé, s'y laver.
Alors on peut imaginer que cela est une référence à ce que sera le rite baptismal. Nous avons là un signe qui permet de faire prendre conscience qu'il faut quitter les habits du vieil homme pécheur pour se revêtir de la dignité de l'homme nouveau. Mais le nom de la piscine est intéressant également, comme c'est d'ailleurs précisé dans le texte grec, ça vient de l'hébreu « chalar » qui doit être compris comme « envoyé ». Et au fond, ce qui se passe, c'est qu'on est au départ avec un homme qui est aveugle, donc il est handicapé. Il est éloigné du cœur de Jérusalem, il n'a pas le droit de se rendre au temple puisqu'il est infirme. Et ce que fait Jésus, c'est qu'il l'envoie à Chalar, Siloé, le lieu où l'on devient apôtre, on devient envoyé. Et donc de cette personne exclue, Jésus fait un apôtre. Vous voyez, ça c'est un phénomène intéressant de retour vers la vie et un retour vers une vie active et responsable.
Il y a tout ce passage où les pharisiens vont chercher l'homme et puis ils vont voir la famille. La famille intervient, les parents. Et on demande finalement, mais où est votre fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors il y a cette parole, mais demandez-lui, il est assez grand pour s'exprimer. Comment vous interprétez là ce passage?
Tout d'abord, il faut repérer que ce passage est exactement au cœur de ce passage biblique. On peut constater que nous sommes dans un récit qui a été construit de manière concentrique. Les épisodes se répondent les uns par rapport aux autres Et ce passage est unique et il est au centre. Et il me semble que le rédacteur de cet évangile a voulu insister sur ce passage où il met en évidence le fait que les témoins de la foi sont dans une situation particulièrement toxique, puisqu'ils sont obligés de se défausser, sans quoi ils vont être condamnés. S'ils confessent Jésus comme guérisseur, par exemple, ils vont être condamnés par la synagogue. Et il me semble que nous avons là affaire à une sorte d'anachronisme. C'est-à-dire que Jean écrit pour les lecteurs de son époque, donc on est à la fin du 1er siècle, et pas du tout à l'époque de Jésus, parce qu'on, à l'époque, on ne risque pas d'être exclu de la synagogue quand on confesse Jésus.
Ce qui est le cas à l'époque de Jean.
Ce qui est le cas à l'époque de l'école joannique. Avec des persécutions en plus. Et ce qu'explique l'évangéliste Jean, c'est que nous risquons de nous défausser et d'être finalement apostats par rapport à l'évangile si nous nous plions au diktat des pharisiens qui considèrent que nous ne pouvons pas professer le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire de Jésus, Messie et Sauveur.
Oui, ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs, nous dit Jean. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Donc on a là, effectivement, dans ce récit tardif, une mise en situation de ce que vivaient les premiers chrétiens.
Et une invitation, du coup, à une sorte de courage d'être, faire valoir sa foi personnelle, parce que sinon, on va se soumettre à ce pouvoir qui, en fait, écrase tout. Et donc, on a cette mise en scène des parents qui est vraiment le centre narratif de cette histoire et qui, à mon avis, est le centre du message de Jean dans cet épisode. Et paradoxalement, cela montre le courage du fils qui, lui, va se démarquer d'une génération antérieure qui est peureuse, finalement, qui se soumet à cet ordre établi. Il faut bien comprendre que la foi est une foi insoumise.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
James Woody, à la fin du récit de l'aveugle né, Jésus finit par retrouver l'aveugle qui a été jeté dehors par les autorités juives et il lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Le verbe « croire » est fondamental chez Jean, en règle générale, on le retrouve énormément dans beaucoup de textes. La foi est fondamentale ?
La foi est fondamentale et ici, elle est reliée au verbe « voir ». Le verbe « voir » est le verbe le plus utilisé dans ce passage « voir » et « aveugle ». C'est vraiment le thème dominant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte et dans la langue grecque, il y a plusieurs verbes pour parler de « voir ». Il y a notamment « orao », qui est le verbe utilisé pour Jésus dès le premier verset. Jésus voit un aveugle de naissance. Ensuite, il y a le verbe blepo, qui est regarder, qui est utilisé. Et à ce moment-là, l'aveugle qui a été guéri voit à la manière de Jésus avec orao. J'aime bien cette analogie avec Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est toujours avec Watson. Ils sont dans les mêmes lieux. Ils regardent les mêmes choses, mais ils ne voient pas les mêmes choses. Et à chaque fois, Sherlock Holmes dit à Watson, vous regardez, mais vous ne voyez pas. Et bien là, ce que fait Jésus, c'est de le rendre capable de voir ce qui, jusque-là, n'était que regarder, c'est-à-dire donner du sens. Et la foi, c'est ensuite d'adhérer à ce qui, pour nous, a un sens fondamental, à ce qui a le sens de l'existence, le sens de l'humanité, le sens de cette vie qui n'est pas simplement un conformisme à un ordre établi assez mortel, ou un ordre qui expulse, qui nous rend complètement marginal, mais au contraire, un ordre qui permet de réintégrer dans la création voulue par Dieu dès le début de la Genèse.
Vous parliez de voir ou ne pas voir, vous le reliez donc à la finale là, du texte que je lis. « Je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement, dit Jésus, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. »
Oui, d'autant que c'est à coordonner avec les pharisiens qui disent « Mais alors, nous-mêmes, nous sommes aveugles ?» Ben oui, bien sûr. Ce qui montre bien d'ailleurs que tout ce chapitre n'a aucun rapport avec une question physiologique. la cécité dont il est question est une cécité plutôt d'ordre existentiel, c'est-à-dire que c'est pas un problème de globe oculaire ou je ne sais quoi, c'est bien que ce que nous avons sous les yeux ne fait pas sens, ce n'est que du tohu-bohu pour nous. Et ce que Jésus fait, c'est de pouvoir faire ce travail de discernement, ce travail de compréhension, et ceux qui pensaient voir vont découvrir qu'en fait ils ne voyaient rien, donc ils vont se découvrir aveugles. En revanche, ceux qui avaient le sentiment de ne rien comprendre à leur vie et qui voulaient comprendre, qui voulaient voir, qui voulaient décrypter, qui voulaient déchiffrer, interpréter les signes de la vie, ceux-là vont pouvoir parce qu'ils sont ouverts à une interprétation qui jusque-là leur faisait défaut.
Et donc l'aveugle, c'est celui qui dit « je sais pour l'autre, pour Dieu, pour moi-même ».
Oui.
Ce que font les pharisiens.
Bien sûr. On pourrait même aller jusqu'à dire que la véritable foi est une foi agnostique. L'inverse de la foi, ce n'est pas le doute, c'est le savoir. Quand on sait, on a figé les choses. Ce que l'on sait, c'est ce qui concerne les objets qui sont définitifs, déterminés. En revanche, la vie, elle nous échappe toujours. Et donc, on ne peut que y adhérer, on ne peut qu'espérer s'inscrire sur ce chemin de vitalité. Mais à partir du moment où il y a un savoir, il y a quelque chose qui est défini, définitif, déterminé, et ça, ça n'a aucun rapport avec la vie telle que la Bible nous la présente.
James Woody, en quoi ce texte que nous avons lu aujourd'hui même, il est une bonne nouvelle pour nous? Vous avez commencé déjà à le dire, mais d'une manière plus fondamentale.
Alors, peut-être pour le dire plus clairement et de manière plus ramassée, quand on se pense enfermé dans un passé, enfermé dans une faute, enfermé dans une vie rabougrie, cet évangile nous explique que nous avons la possibilité de sortir de ce que Platon appelait cette caverne dans laquelle nous ne voyons la vie qu'à travers les ombres qui sont projetées sur les parois. Nous pouvons ouvrir la vie sur toutes les richesses dont elle est pourvue et nous pouvons nous-mêmes devenir témoins de la vie. C'est-à-dire que nous pouvons passer d'une situation de totale soumission, de tout total aveuglement, à une vie de totale activité et de total apostolat. Nous pouvons devenir témoins pour les autres d'une vie enfin bonne.
Mais il faut accepter de perdre pour ça, accepter de perdre ses croyances, tout ce qu'on croit savoir, et puis aussi toutes les mythologies qu'on se fait autour de Dieu, des autres, de notre histoire aussi.
Je pense qu'un pasteur dirait « il faut accepter de se réformer ». La réforme est toujours à réformer, et c'est ce processus-là qui doit animer la foi. C'est la raison pour laquelle le doute n'est pas l'ennemi de la foi, parce que le doute est ce qui permet de casser quelques certitudes, ce que la Bible nomme des idoles, c'est-à-dire des vérités qui sont figées, des vérités qui n'ont plus aucun rapport avec la vie en plénitude.
Donc c'est ce qui est symbolisé par le départ après de cet homme qui, lui a été guéri physiologiquement, mais c'est à l'intérieur qu'il faut regarder les choses et que nous-mêmes sommes appelés à toujours casser ces écailles-là qui nous empêchent de voir.
Moi, je ne dirais pas qu'il a été guéri physiologiquement, je dirais qu'il a été guéri sur le plan spirituel. Tout à l'heure, on parlait de cette lumière qu'apporte Jésus. C'est pas une lumière en termes de photons, c'est une lumière comme on peut parler des lumières au XVIIIe siècle, avec ce qui nous fait sortir de l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est quand on a des vérités que l'on a reçues de nos anciens et qu'on n'interroge plus. Est-on vraiment sûr que les vérités qui étaient bonnes autrefois sont encore capables d'éclairer notre présent et notre avenir? Jésus dit, non, il ne faut pas s'intéresser aux réponses d'autrefois, il faut s'intéresser aux questions d'aujourd'hui. Il ne faut pas essayer de trouver des liens de culpabilité, mais plutôt essayer de trouver des solutions pour faire entrer chacun dans une existence.
Merci à vous, James Woody. Pour ceux et celles qui veulent lire en entier l'évangile de Jean, là je rappelle qu'on en a pris simplement une partie, c'est au chapitre 9, versets 1 à 41, chez Jean. Merci à Xavier François, à la technique.